L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Bien, que prévoit la loi en cas de faux témoignage? Il peut arriver qu'une personne, pour une raison ou une autre, porte un faux témoignage devant les tribunaux ou un officier de police judiciaire. D'après la loi, l'auteur d'un faux témoignage est passible des poursuites judiciaires car il s'agit là d'un acte qui porte préjudice à la justice et à la personne lésée. Alors, quels sont les risques encourus lorsque vous portez un faux témoignage dans un procès, par exemple? Alors, pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment la loi définit le faux témoignage?
La loi, en l'occurrence l'article 128 du Code pénal livre 2, définit le faux témoignage comme le fait d'altérer la vérité par écrit ou de manière verbale lorsqu'on est appelé à donner un certain nombre de renseignements, d'informations dans le cadre d'un procès devant un tribunal. Généralement, pour le cas de faux témoignage, il faut bien que l'affaire soit en instruction juridictionnelle, ça veut dire devant le juge, et l'élément essentiel pour que cette infraction soit constituée, c'est que celui qui donne le faux témoignage doit l'avoir fait après avoir fait son serment devant le tribunal de dire la vérité et rien que la vérité.
Voilà, donc le faux témoignage est une altération de la vérité. On altère la vérité au cours lorsque dans une affaire qui est en instruction. Alors, pourquoi certaines personnes s'arrangent ou s'organisent pour venir porter un faux témoignage?
D'abord, il faut se dire que pour que cette infraction soit commise, soit constituée aussi sur le plan du droit, il faut que l'intention délictuelle soit établie. Ça veut dire l'intention dans le chef du faux témoin d'induire en erreur la justice, son intention d'altérer la vérité et de mettre la justice sur de fausses pistes. Et donc, lorsque cette intention délictuelle n'est pas constituée, n'est pas prouvée devant le juge, les faux témoignage n'est pas établi. Et donc, pour revenir à votre question, des personnes peuvent être intentionnées à obstruer la justice, à l'induire en erreur, en donnant des faux renseignements juste pour s'obtenir un certain nombre d'avantages, par exemple pour eux ou pour d'autres personnes pour qui ils ont intérêt à ce que, justement, la justice ne soit pas d'une position ou d'une autre.
Ils peuvent avoir été corrompus, hein. On leur a donné de l'argent pour dire, allez, dites ceci et dites cela.
Et cela est très courant. On remarque, par exemple, au niveau de la Cour pénale internationale, l'infraction qui s'appelle la subornation de témoins, où des témoins sont soit menacés pour dire de fausses vérités aux juges, ou soit qu'ils reçoivent des promesses, ou alors de l'argent, des biens. Oui, et là, la CPI, vous vous rappelez, a été en train de poursuivre un certain nombre de nos compatriotes dans l'affaire Bemba pour subornation des témoins, parce que justement ces témoins ont été amenés à faire des faux témoignages. Et donc le faux témoignage peut être influencé de l'extérieur, tout comme il peut venir intentionnellement de la personne. Et c'est là qu'on établira particulièrement l'intention délictueuse, l'intention de nuire, l'intention d'induire la justice en erreur.
Pour le cas de l'affaire Bemba, les témoins venaient témoigner pour ou contre?
Pour la plupart des témoins, ils venaient témoigner contre Bemba, et donc une contre-expertise du parquet de Monsieur Ocampo à l'époque a fait établir que il y avait justement l'intention manifeste d'induire la justice en erreur en influant sur les témoins qui étaient clés, notamment les témoins qui venaient témoigner sur des questions de viol, et donc le juge qui a établi finalement qu'il n'y avait pas de viol s'est surpris d'apprendre qu'il y avait finalement parmi les témoins ceux qui étaient venus à décharge de Bemba dire des contre-vérités.
Alors, comment est-ce que le juge peut arriver à détecter cette intention délictuelle, d'induire la justice en erreur?
Au pénal, le juge est dynamique, comme on dit, contrairement au civil, où le juge se limite aux prétentions de droit qui lui sont amenées. Il ne statue que sur ce que les parties ont dit. Au pénal, le juge ne peut condamner que sur fond de l'intime conviction après avoir examiné les faits qui lui sont amenés, mais aussi conduit des enquêtes supplémentaires, le cas échéant, et faire assigner à témoins les personnes qu'il croit être capable de fournir un certain nombre d'informations supplémentaires, complémentaires ou même contradictoires par rapport aux faits qu'il a. Mmh. Et donc, il est dynamique pour rechercher la vérité et finalement statuer à la fin sur fond de son intime conviction que effectivement cette infraction est établie dans le chef de tel ou qui n'est pas établie dans le chef de tel. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes à lui appliquer éventuellement, etc.
Que prévoit la loi en cas de faux témoignage? Vous avez des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94. Alors, quelles sont les sanctions qui sont réservées à toutes ces personnes qui portent les faux témoignages?
En cas de faux témoignage, le juge peut condamner jusqu'à 5 ans de prison, ce qui fait que c'est entre 8 jours et 5 ans, ce qui fait que cette infraction est du ressort du tribunal de paix, parce qu'au sens de la loi de 2013 qui porte l'organisation et les compétences judiciaires, le tribunal de paix est compétent pour toutes les infractions qui sont punissables d'un maximum de 5 ans.
Voilà, de 8 jours à 5 ans. Mais si les juges découvrent que la personne, le témoin, ne disait pas la vérité, que la personne se défend, elle dit non, j'étais menacée. Si je ne portais pas ces témoignages, on pouvait soit m'éliminer ou soit me faire subir des choses pas très bien.
Le principe de la Constitution et même de la loi est que nul n'est censé obéir à un ordre manifestement illégal. Et donc, le juge appréciera...
Même si ta vie est en danger?
Oui, parce qu'il y a 1000 manières de se défendre qui sont prévues par la loi. Et donc, je ne vois pas de cas de figure exactement qui pourrait élaguer la responsabilité du faux témoin pour fait d'avoir été menacé. Par contre, le juge pourra être appelé à examiner la nature de la menace pour se dire si oui ou non la personne avait toute sa liberté d'obtempérer aux ordres ou aux menaces ou pas. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, puisqu'il est question de témoigner devant le juge, vous êtes déjà devant le protecteur des libertés fondamentales et de vos droits, donc vous pouvez clairement dire devant le juge et en audience publique, parce que le principe est encore celui-là, la publicité des audiences, et que vous avez été menacé pour dire ceci ou cela.
Ah, on peut le dire en plein
procès. Vous pouvez avoir le courage de le dire parce que c'est le juge qui vous protège. Alors, par contre, lorsque un faux témoignage est manifeste et flagrant, même le ministère public peut se saisir d'office en termes de délit d'audience. Et donc, vous pouvez être poursuivi immédiatement en pleine audience et être condamné pendant que l'autre procès pour lequel vous étiez appelé à témoigner sera mis en bémol.
Mais qui sera condamné? Est-ce que c'est la personne qui porte les témoignages ou la personne derrière, dans l'ombre, qui le pousse à aller dire des contre-vérités?
Il y aura alors pour le juge pénal, qui est dynamique, comme je l'ai dit, à rechercher d'abord la vérité sur le faux témoignage qui est fait, mais aussi sur la question de la menace. Et il peut se saisir d'office dans ce cas-là.
Et cette personne, si on arrive à mettre la main sur elle, quelle sera la sanction? Sera la même?
Oui, la menace, c'est une infraction, la menace d'attentat contre les personnes. La loi parle de la menace d'attentat contre les personnes et contre les biens. Et donc, c'est des infractions, c'est une infraction qui est prévue et punie par le Code pénal livre 2, et pour lequel aussi la loi prévoit un certain nombre de peines, notamment lorsque la menace a été faite sur ordre ou avec promesse.
Parce que parfois c'est une contrainte, on vous met une pression psychologique, si vous ne faites pas ça, nous savons où se trouvent vos biens, nous connaissons vos enfants, tout ça, ils vont disparaître, et vous vous sentez contraint d'aller porter ces faux témoignages.
Et c'est là qu'il faut appeler plutôt la population à avoir une culture juridique, à savoir, à connaître l'importance de la justice dans la défense de leurs droits, dans la défense, la protection de leurs intérêts les plus légitimes. Et donc, il faut avoir le courage d'aller vers la justice. justice. Bon.
Et vous avez dit en pleine séance, on peut le dire au juge que voilà, j'ai été, je suis contraint.
Absolument.
On m'a obligé de venir porter un faux témoignage dans cette affaire.
Le témoin, lorsqu'il comparaît devant le juge, il prête d'abord serment. C'est différent des renseignants qui peuvent venir juste pour donner un renseignement, mais qui ne peuvent pas être des témoins du fait de leur proximité avec l'une des parties au procès. Et on comprend bien qu'un renseignant puisse être le fils d'eux ou le neveu d'eux, et donc qui ne peut pas dire nécessairement des vérités pertinentes pour la justice. Mmh. Par contre, le témoin doit nécessairement prêter serment, et il doit dire qu'il dira rien que la vérité au tribunal.
Que prévoit la loi en cas de faux témoignage, maître Charles Amouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, l'invité d'Okapi Service. Nous avons deux auditeurs en ligne. Rousseau nous appelle depuis Matadi et Eric depuis Bounia.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte. Le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Que prévoit la loi en cas de faux témoignage, maître Charles Amouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete et l'invité d'Okapi Service. Rousseau nous appelle depuis Matadi, Eric depuis Bounia. Rousseau, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, ma préoccupation est de savoir, il y avait eu un procès ici, on avait ramassé juste un témoin, on lui a expliqué comment dire. Et il avait dit cela.
Qu'est-ce qu'il avait dit?
Il avait témoigné qu'il y a une affaire. Bon, vous savez, c'est un problème de justice, je ne peux pas le dire. Il avait dit que bon, lui a juste payé de l'argent pour témoigner. Je suis là, lorsque les effets se produisaient, on ne les était même pas là. Alors, il avait témoigné, il a dit, c'est un bon témoignage. Mais je vais demander au maître, comment peut-on savoir que cet homme est en train de mentir, car il n'était même pas sur les lieux du crime, par exemple? Et ma deuxième question de savoir, concernant les procès des ZDS à Beni, les présumés ZDS disent être avoir récité par les imams. Donc les imams récitent totalement ces bon, il faut les répondre. Mais comment peut-on savoir que cela est vrai, que ce sont ces imams-là qui les ont récités ou comment? Merci.
Bien. Eric, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Eric. Oui, la communication n'est pas bonne. Veuillez vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que ça peut s'améliorer, Eric. On ne vous entend pas très bien.
Oui, allô?
Oui, allez-y.
Ouais. Bon, je voulais juste savoir si quelqu'un témoigne négativement et on prononce le jugement. Après avoir prononcé ce jugement-là, et on a condamné la personne en question. Après, le juge peut toutefois découvrir que non, il était mal élu par le témoin de ce témoin-là, qui prévoit la loi par rapport à ça.
D'accord, merci. Donc, quelqu'un porte un faux témoignage et après, les juges ils condamnent la personne sur base de ces témoignages et après, ils se rendent compte que c'était un faux témoignage. Qu'est-ce que la loi prévoit dans ces genres de situations, maître Mouchizi?
D'abord, la doctrine à la suite de juge Boni Tshizungu de très heureuse mémoire dit que témoigner, c'est affirmer ce qu'on a vu, entendu ou senti, ou infirmer ce qu'on n'a pas vu, entendu ou senti. C'est-à-dire que la personne qui vient témoigner doit intimement être attachée à la vérité ou à la contre-vérité qu'il veut apporter au juge. Et le juge ne peut pas aller au-delà de ces trois verbes, voir, entendre ou sentir. Mmh. Et donc, lorsqu'une personne a subi justement des pressions pour venir déposer devant la justice, à charge ou à décharge, elle porte la responsabilité de la vérité qu'elle doit dire au juge parce qu'elle est sous serment de dire rien que la vérité.
Mmh.
Par contre, dans la deuxième question de l'auditeur, il est plutôt question d'un mal jugé. Et les parties au procès ont toute la latitude, conformément à la loi, d'introduire un recours en appel, justement, contre la décision qui aura été prononcée en mauvaise exploitation du témoignage qui a été fait par le témoin. Et donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ce qui est de cette deuxième question. Mais de toute évidence, le témoin n'a aucune action en justice particulière, ni contre les personnes, les parties litigantes, ni contre le juge. Parce que elle n'est liée qu'au juge. Elle n'est liée que par le fait de venir corroborer un certain nombre des faits qui sont en examen devant le juge, ou alors de les affirmant ou à les infirmant.
Il a parlé et donné l'exemple des ADEF, certains ADEF qui ont dit avoir été recrutés par des imams, mais les imams ont dit non, c'est faux, c'est pas vrai. Alors il veut savoir dans ce genre de situation là, peut-il s'agir d'un faux témoignage et quelle est la sanction?
Une fois encore, c'est au juge qu'il appartient de dégager clairement la vérité s'il y a eu recrutement ou pas. Le recrutement peut n'avoir pas été fait de manière très formelle sur base des engagements écrits, etc. Peuvent avoir été fait sur base d'une personne interposée, mais au bénéfice des imams, ou peut avoir été fait simplement sur la forme verbale avec les imams. La question pour le juge et pour les témoins, dans ce cas-là, c'est d'établir ce lien de causalité entre cette action, cette utilisation des personnes poursuivies et les personnes des imams cités. Et donc, et là, c'est encore une fois une question d'instruction qui peut être postulée devant le juge en termes de mesure d'instruction par une des parties qui en a intérêt, ou directement par le juge lui-même, parce que il peut considérer que de ces témoignages, il peut tirer l'élément essentiel qui peut contribuer à son intime conviction.
Gaël nous appelle de Lumbashi, et Jacques également. On commence avec Jacques, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour. Ma question, c'est celle-ci. Si l'invité peut nous donner la différence qu'il y a entre une fausse accusation et un faux témoignage tel qu'on est en train de traiter là. Bon, parce que nous sommes en train de poser des questions tout en prenant aussi certains exemples des choses qui se passent de fois dans notre pays. Je veux savoir les procès de Moïse Katumbi Chapo, c'était une fausse accusation dans l'histoire des recrutements des mercenaires. C'était une fausse accusation ou un mauvais témoignage?
D'accord, merci Gaël. Vous êtes à Lubumbashi, quelle est votre question?
Oui, bonjour. J'aimerais juste poser la question à l'invité par rapport à la thématique du jour. Puisque nous parlons de la subornation d'un témoin. Alors, lorsque un témoin a été suborné, je voulais juste poser la question, si ils ont des machines qui détectent si le témoin a été suborné, ou comment utilisent-ils pour parvenir à constater que le témoin a été suborné, ou encore où ils utilisent le moyen pour dompter le témoin pour parvenir à parler, pour dire que réellement il a été suborné ou pas. C'est la question que j'avais à poser.
D'accord, merci. Gaël de Lubumbashi, nous avons en ligne David de Kalemi. Bonjour David.
Oui, bonjour, je suis Daniel Casson.
Quelle est votre question, David?
Moi, j'aimerais poser une seule question à l'invité. Bon, je connais un papa qui témoignait le faux témoignage au parquet de Kalemi. C'était un problème de viol. Et on a violé son enfant, sa fille. Mais là, quand on a convoqué son papa, il était venu juste au ma fille, elle est mineure, elle n'est pas atteinte, l'âge de 18 ans. Maintenant, le juge a demandé l'attestation de naissance. Maintenant, lorsque le papa a amené l'attestation de naissance au parquet, on vient de remarquer qu'à l'attestation de naissance, la fille est au-delà de 18 ans. Maintenant, que dit la loi congolaise à cette infraction? C'est ça la question que j'aimerais savoir à l'invité.
Bien, merci. Maître Mouchise.
La subornation de témoins peut être prouvée par tous les moyens de droit. Et comme j'ai dit au début, le juge pénal, il est dynamique et il peut recourir à n'importe quelle mesure d'instruction pour et des mesures probatoires d'ailleurs essentiellement pour établir son intime conviction de sur le fait que s'il y a eu subornation ou pas.
Et il peut le sentir.
Il peut le sentir parce que lorsqu'on parle de l'intime conviction, c'est plus ou moins subjectif, mais évidemment à la base, il y a quand même un certain nombre de soubassements d'éléments de preuve. Et les gens ne s'imaginent peut-être pas comment fonctionne le juge ailleurs, parce que la subornation de témoins est essentiellement poursuivie comme infraction à la Cour pénale internationale. Et il suffit de voir la qualité de l'administration, le niveau de moyens matériels, financiers, logistiques qui sont mis à la disposition du juge pour comprendre justement la facilité avec laquelle il peut conduire un certain nombre d'enquêtes et parvenir à son intime conviction pour établir l'infraction ou pas. Par contre, pour la question de la fille qui a été violée, oui, le père peut être poursuivi pour fausse déclaration devant la justice. Lorsqu'il vient témoigner, lorsqu'il vient donner des renseignements dans un procès qui engage sa fille comme partie litigante, il ne peut pas être témoin, il peut être à la limite renseignant. Et lorsqu'il a fait des fausses déclarations, il sera poursuivi pour une infraction qui est différente de faux témoignage et qui s'appelle fausse déclaration faite devant la justice et qui est prévu par l'article 131, si je ne me trompe pas, du Code pénal livre 2. Et donc, il sera poursuivi pour ça. Mmh. Par contre, la question de l'âge n'est plus très importante sur les questions de viol. Et pour les questions de viol des mineurs, le consentement ne peut pas être, ne peut pas s'inférer du fait, pour le viol des majeurs plutôt, le consentement ne peut pas être inféré du fait que la fille ait été reconnue à de mauvaises habitudes, de mauvaises mœurs, par exemple, ou qu'elle ait cédé parce que finalement les éléments qui l'auront poussé à céder peuvent être établis en tout état de procédure devant le juge ou même devant le ministère public qui instruit. Et donc, la question de viol sera instruite différemment de la question de fausse déclaration commise par le père devant la justice et lui qui sera poursuivi donc du chef de fausse déclaration faite devant la justice.
Mmh. Jacques Lelumbashi parle, est-ce qu'il y a une différence entre une fausse accusation et un faux témoignage? Il a donné les cas du procès Moïse Katumbi où il a été accusé d'avoir recruté des mercenaires.
Les fausses accusations ne sont pas constitutives d'infractions particulières. Par contre, on peut parler de dénonciation calomnieuse lorsque lui, pendant qu'il était encore aux affaires, a été accusé devant une certaine hiérarchie qui avait le pouvoir de le sanctionner. Et donc, ça, c'est à établir encore sur le plan du droit. Est-ce que l'accusation a été fausse au départ? Est-ce que dans l'accusation il y avait une intention délictuelle, une intention de nuire? Ça c'est une autre chose. Mais est-ce qu'il s'agissait du même procès pour lequel justement il était condamné, auquel cas il serait déchargé, acquitté carrément? Et donc ça c'est des éléments pour lesquels il faut être dans le concret, il faut lire la décision du juge. Mmh. Et il faut aussi peut-être regarder les notes des plaidoiries, les conclusions qui ont été développées par les parties litigantes. Concrètement, je ne peux pas dire quelque chose de très précis, mais je constate que s'il y a eu dénonciation calomnieuse dans une même cause où il était poursuivi et où il a été condamné, il devait pouvoir être acquitté.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission au Capi Foot chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Que prévoit la loi en cas de faux témoignage? Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa, m'a été l'invité du Capi Service. Adrienne est à Lumbashi. Marius nous appelle des Kananga. On commence avec Adrienne. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kassama. Bonjour, maître Charles Mouchidi. Avant de poser ma question, j'ai d'abord un petit témoignage. C'est juste un jour, il y avait peut-être un procès ici chez nous. Il y avait un témoin qui avait vécu donc un événement là, et la personne en question avait la vérité en lui. Non, la personne qui avait commis cela l'avait obligé donc de donner des faux témoignages. La personne aussi avait accepté, mais arrivé devant les juges, la personne avait changé pour dire la vérité, c'est ce qui est. Donc, pour dire donc la vérité. Mais après, la personne qui avait fait ça était en prison, était aux arrêts, mais la personne qui l'avait poussé est libre jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Et ma deuxième question, là c'est une question, j'aimerais juste savoir pourquoi de nombreux des faux témoins remportent toujours. Merci.
Bien. Bon nombre de faux témoins remportent toujours. Marius Dekananga, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, joli Daniel, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Bon, j'ai une préoccupation à soumettre à votre invité. Dans une famille ici à Kananga, j'ai déjà vu un papa qui a accusé un beau-fils en disant qu'il a violé sa fille parce que la fille était tombée enceinte. Maintenant, après, quand on a appelé aussi la maman, parce qu'il y avait déjà eu divorce, le papa vivait ailleurs, la maman aussi ailleurs, mais la fille logeait chez son papa. Maintenant, quand ils sont arrivés, on a commencé le procès. Le papa dit que la fille est mineure, alors que la maman nie. Et je vais demander à l'invité quelles sanctions la justice prévoit pour des cas pareils.
Bien, bien, merci. Trésor, elle nous appelle aussi des Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour également à notre invité.
Quelle est votre question?
Oui, j'aimerais que l'invité nous explique que dit la loi congolaise. Parce que en matière de cette infraction-là, bon, on exige souvent l'intime conviction du juge. Parce que lorsque l'invité a dit de la sanction, que ça, on prend de 8 jours à 5 ans. C'est-à-dire que il y a l'implication de l'intime conviction du juge là-dedans. Maintenant, j'aimerais que l'invité nous explique. Si un juge arrive à libérer peut-être un témoin qui a apporté le faux témoignage devant sa juridiction. Et le monsieur, la victime en question, qu'on a vu apporter le faux témoignage, a été condamné et elle arrive à purger sa peine. Et après avoir été libérée, est-ce que la personne, la victime là, peut poursuivre la personne en question, la personne qui avait amené des faux témoignages devant la juridiction pour que cette dernière soit condamnée? C'est ça la question que je vais poser à notre invité.
Merci, maître Charles.
Je vais commencer par la dernière question, parce que je l'ai un peu plus fraîchement en mémoire. Mmh. Oui et non. La personne qui a été victime de ce faux témoignage, en fait, peut intenter une action contre le faux témoin si, je veux dire, la personne qui a intérêt à poursuivre un faux témoin peut apporter justement une accusation devant le juge sur fond, par exemple, des dénonciations calomnieuses, s'il y a eu cette première décision de juge reconnaissant le faux témoignage sur fond duquel elle a été attrée en justice. Mmh. Et donc, oui et non, mais lorsque c'est pour les mêmes faits, le principe du droit dit non bis in idem, aucune personne ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits. Et donc, il faudra plutôt trouver une autre incrimination, une autre infraction sur fond de laquelle le faux témoin peut être attrayé. Il a déjà été condamné pour faux témoignage. Il ne peut plus être accusé de faux témoignage pour entre les mêmes parties litigantes. Il pourra à la limite être accusé de dénonciation calomnieuse par rapport à la personne qui contre qui il a porté des faux témoignages. Mmh.
Maintenant, par rapport aux questions d'Adrien de Lumbashi, il dit que les faux témoins ont toujours remporté, ils ont toujours gagné, et puis disons leurs témoignages, les témoignages sont toujours acceptés, et puis il y a un témoin qui connaissait la vérité, on lui a dit de mentir, mais arrivé au niveau du procès, il a dit la vérité, et après il a été condamné.
Le professeur Akel est de très heureuse mémoire. Aujourd'hui, je me rappelle finalement d'un certain nombre de types illustres qui nous ont marqués dans notre profession. Avait l'habitude de considérer que le justiciable et le juge du juge, généralement, parce que c'est lui qui, au finish, apprécie l'œuvre du juge. Mais moi, je n'irai pas sur ce terrain glissant à condamner directement le juge et à considérer que tous les faux témoins ont généralement gain de cause devant le juge. Non, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier la pertinence de l'élément probant qui lui est apporté, qu'il a demandé personnellement au titre des serments, au titre d'une mesure d'instruction probante, d'une mesure probatoire plutôt, ou qu'il a reçu librement des parties litigantes. Et donc, les parties, chaque fois qu'elles seront en présence d'un jugement truffé d'erreurs ou de mal jugé, ont l'attitude d'aller devant le juge supérieur et de se pourvoir d'un recours en appel ou en toute autre voie de recours extraordinaire, jusqu'en cassation, jusqu'en annulation, jusqu'en révision de la décision de justice. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se limiter à constater qu'il y a des erreurs dans une décision et s'affaler avec une déception en disant « oui, c'est ça notre justice ». Non, la loi vous donne la possibilité d'aller au-delà du juge qui a rendu la décision qui ne vous satisfait pas.
On peut interjeter appel.
On peut interjeter appel, on peut aller en cassation, on peut aller en révision, on peut aller en annulation d'une décision de justice.
Voilà, on va accueillir deux auditeurs, on va revenir aux autres questions. André nous appelle de Kananga Bat, depuis l'île d'Idjui, au sud Kivu. André de Kananga, bonjour. André, bonjour. Alors, oui, quelle est votre question, André?
Oui, je voudrais demander à l'invité... Si quelqu'un a porté un faux témoignage, quelle est la démarche à suivre pour savoir qu'il a porté un faux témoignage? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, les victimes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire aussi à son tour contre celui qui a porté le faux témoignage? André Kalonji, étudiant à l'USP Kananga. C'est ça ma question.
Merci, Bat. Si vous êtes à l'île d'Idjui, au sud Kivu, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, c'est Bat. Il va nous partir d'Idjui. J'ai une petite préoccupation. J'aimerais savoir que prévoit la loi pour ceux-là qui donnent des faux témoignages aux réseaux sociaux et ceux-là qui caricaturent des hautes personnalités.
Voilà, faux témoignages dans les réseaux sociaux, Maître Charles.
D'abord, je tiens à préciser tout particulièrement à l'attention de notre cher étudiant de l'ISP qui vient de poser la question que le témoignage n'est envisageable que dans le cadre d'un procès ouvert devant le juge. Et donc, lorsque il y a eu faux témoignage et que ce faux témoignage est préjudiciable à l'une des parties au procès, cette partie au procès peut faire une demande additionnelle, parce que là, elle se constitue comme partie civile. Et elle a le droit donc de faire une demande additionnelle devant le juge pour que ce faux témoignage soit instruit et constaté par le juge. En ce moment-là, le faux témoin peut être condamné même dans la même instance. Par contre, si c'est un faux témoignage qui a préjudicié quelqu'un qui n'est pas au procès et qu'une décision de justice est rendue en défaveur d'une citant notamment cette personne qui n'a pas initialement été partie au procès, elle peut se pourvoir devant le juge en tierce opposition pour que cette décision soit réformée. En ce moment-là, l'opposition comme voie de recours devient un moyen de réformation de la décision qui a été rendue. Et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait juste pour des personnes qui ne peuvent pas être condamnées injustement. L'autre question, par contre...
La question de Bahati par rapport aux faux témoignages dans les réseaux sociaux.
C'est la même chose que je vais dire, hein. Parce que le témoignage ne s'envisage que dans le cadre d'un procès ouvert devant le juge et pas devant les réseaux sociaux.
D'accord. Alors, Marius de Kananga dit, il y a un couple, il y a déjà eu divorce. Papa témoigne contre son beau-fils, il dit qu'il a violé sa fille et maman dit le contraire. Que fera le juge à ce moment-là?
Les parties au procès seront la victime et l'accusé de viol. Par contre, les parents pourront venir comme des renseignants. Mais dans ce cas, le juge a une latitude de rechercher par tous les moyens de droit à établir l'âge de la fille. Si elle est mineure, c'est sûr que les circonstances deviennent un peu plus aggravantes. Si elle est majeure, cela ne change pas grand-chose à la nature de l'infraction si le viol est établi. Par contre, si le viol a été établi par un membre de la famille, un ascendant, cela devient encore une circonstance aggravante dans le chef de l'accusé. Et donc, pour la question de l'âge, le juge sera simplement dynamique, comme il l'est déjà de par la loi, à rechercher devant l'officier de l'état civil, devant des examens spéciaux qu'il sera obligé d'exiger pour établir l'âge de la fille. Et donc, la question de l'âge sera probablement secondaire à l'établissement de l'acte lui-même, s'il y a eu des rapports médicaux, s'il y a eu des expertises particulières qui peuvent prouver, s'il y a eu des témoignages pertinents de personnes qui ont vu, qui ont entendu ou qui ont senti.
Voilà, parlons aujourd'hui de ce que prévoit la loi en cas de faux témoignage. C'est ça qu'on appelle l'infraction, c'est la subornation, c'est ça, la subornation des témoins.
Au niveau de la Cour pénale internationale, il y a justement cette infraction qui est prévue dans le cas de la subornation de témoins.
De témoins. Et la sanction, c'est de 8 jours à 5 ans.
Jusqu'à 5 ans de prison en droit congolais.
Bien, Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, merci et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie, bonne journée.